Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté, je façonne.
Amis, citoyens, camarades, bonjour. Eh bien, nous voici réunis pour la dernière fois de cette année 2025 pour cette chronique du groupe Fred Zeller. Je vous propose de faire un petit point sur les sujets qui ont dominé cette année 2025, donc qui se termine, et je pense insister sur deux points qui me semblent assez caractéristiques de ce qui s'est passé cette année. Il y a les propos officiels du gouvernement en France et dans les autres pays, comme quoi la guerre deviendrait inévitable et qu'il faut y consacrer tous nos efforts et y sacrifier tous nos droits. À la libre pensée, on n'entend pas ce langage-là. Et puis, l'autre aspect, mais c'est très complémentaire, c'est la manière dont la presse officielle, la presse mainstream, traite les sujets d'actualité. Oh, c'est pas... Ça fait bien des années qu'on assiste à ça. Mais là, cette année, on a assisté à une aggravation considérable. On voit comment, depuis le début de la guerre que mène le gouvernement de Netanyahou contre le peuple palestinien, après le 7 octobre, comment tous ceux, tous les militants, toutes les associations qui défendent le peuple palestinien, qui défendent les droits du peuple palestinien, pour lesquels il n'y a aucune raison qu'ils soient différents de tout autre peuple. Comment ces militants et ces associations sont criminalisés? Comment, y compris, des sanctions sont prises, notamment chez les universitaires, où une véritable chasse aux sorcières est menée? Une forme de maccartisme à la française qui se développe. Je vous ai lu un texte il n'y a pas très longtemps qui avait ce point-là pour titre. Et ça continue. Alors, dans la première partie de cette chronique, je vous propose la lecture de deux textes. Un texte qui n'est pas tout récent, je l'ai retrouvé en préparant cette chronique. C'est un texte d'Olivier Lecourt Grandmaison qui a été publié sur Mediapart, sur le club Mediapart en mars 2024, donc bientôt 2 ans, mais qui me semble tout à fait d'actualité. Et puis un texte de Jean Bobéro sur la défense de Rokhaya Diallo. Et puis dans la deuxième partie, je reviendrai sur ces éléments de marche à la guerre, de multiplication des classes défense dans les écoles, qui sont vraiment extrêmement inquiétants. Alors tout d'abord, le texte d'Olivier Lecourt Grandmaison, je le rappelle, publié le 19 mars 2024. « Résister à l'offensive de Vincent Bolloré, une urgence démocratique ». Mois après mois, le milliardaire et le très catholique Vincent Bolloré, qui se croit investi d'une vocation messianique, sauver la France des supposés périls existentiels qui la menacent, poursuit son offensive politique. Divers médias, toujours plus nombreux et importants, et de prestigieuses maisons d'édition sont ainsi conquis et soumis aux mêmes méthodes. L'élimination progressive, le plus souvent brutale, de toutes celles et de tous ceux qui, ayant quelques velléités de résistance, sont perçus comme des obstacles susceptibles de compromettre la mise au pas souhaitée par Vincent Bolloré et son clan familial. N'oublions pas les multiples et distingués mercenaires en col blanc qui, grassement rémunérés, sont chargés d'exécuter avec servilité ce programme supposément apolitique. Mercredi 13 mars 2024. Entendu à l'Assemblée par la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de service de la télévision numérique terrestre, le Charles Martel de la Villa Montmorency à Paris, qui, en bon, entre guillemets, français de souche, est fier de l'être, aime à rappeler ses origines bretonnes, son éducation religieuse et traditionnelle, affirmait, pour se défendre, qu'il était un, citation, « démocrate chrétien », soutenu par un tempérament plutôt gentil, plutôt rigolard et plutôt affable. Les ouvriers de certains pays d'Afrique équatoriale et de l'Ouest, où Vincent Bolloré s'est accoquiné avec des dictateurs particulièrement corrompus, Les victimes françaises de cette purge passées et présentes et les nombreux journalistes qui la poursuivirent en justice seront sans doute émus aux larmes par ce plaidoyer pro-domo. Habile mise en scène de soi, destinée à transformer celui qui soutient le récidiviste Éric Zemmour, maintes fois condamné pour complicité d'injures raciales, provocation à la haine et injures homophobes, en un humaniste prétendument soucieux de respecter les autres, le pluralisme et les principes démocratiques. Mal préparé à cette audition, certains députés ont, au mieux, offert à Vincent Bolloré une nouvelle tribune politique, en passant sous silence ses agissements réitérés dans différents médias et quelques-unes de ses turpitudes pour faits de corruption d'agents publics étrangers et de complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux. Admirable liste qui témoigne d'une moralité pour le moins défaillante et de la violation d'importantes dispositions légales. Ce que l'intéressé lui-même a pour partie reconnu en 2012 pour tenter d'échapper à un procès. Au pire, d'autres parlementaires ont fait preuve d'une mansuétude indigne. C'est le cas du député Renaissance Quentin Bataillon, voire même d'un soutien appuyé à celui qui était auditionné sous serment. Ce soutien s'est publiquement exprimé par la voix docile de l'élu Rassemblement national Laurent Jacobelli, qui, fort déférent, a bien compris que l'on ne saurait mordre la main de celui qui, sous couvert de « débats qui intéressent nos compatriotes », participe à la promotion des idées de son parti à des moyens télévisuels, radiophoniques et journalistiques sans précédent. Bien qu'étant évidemment pas coprophage, il est parfois nécessaire, pour des raisons strictement liées à la volonté de savoir, de faire de très ponctuelles entorses à ce régime en regardant CNews, l'heure des pros et « Touche pas à mon poste sur C8 », afin de prendre la juste mesure de l'involution en cours des nombreuses victoires politico-médiatiques remportées par Vincent Bolloré et ceux qui le servent. On y découvre une foultitude de chroniques et de bavards divers et d'idéologues catholiques qui se croient encore journalistes, lors même qu'ils ne sont que les propagandistes zélés d'opinions d'extrême droite sublimées en audace, destinées à combattre une prétendue pensée unique, l'islamo-gauchisme et le wokisme. Autant de vains fantômes forgés pour les besoins de leur mauvaise cause et propres à entretenir la peur dans les chaumières, les beaux quartiers et jusqu'au sommet de l'État où la démagogie le dispute à l'opportunisme, à moins que ce ne soit l'inverse. Hier, la peur des rouges tenait lieu de représentation du monde et les chiens de garde de l'Occident chrétien étaient nombreux et influents. Aujourd'hui, la hantise de l'islam et des musulmans, des exilés du Sud et la dénonciation hargneuse des nouveaux mouvements féministes, entre autres, sont au principe des batailles financées par le groupe de Vincent Bolloré et menées par les meutes toujours plus agressives et bruyantes de ses obligés. Dans ce passage idéologique ainsi façonné, tout n'est que bruit, fureur et menaces permanentes susceptibles de ruiner l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes de souche, l'identité de la France et ses glorieuses traditions judéo-chrétiennes. Mention spéciale, bien sûr, au ventriloque Pascal Pro, admirable débiteur de lieux communs éculés qu'il prend pour de fortes pensées, et au bouffon stipendier Cyril Hanouna, qui, à la grossièreté intellectuelle du premier, ajoute la sienne propre. Dans un autre style, elle est abyssale également, et elle nourrit de pseudo-débats, des invectives et des railleries à ce point grave et réitéré que son émission a fait l'objet de 5 sanctions par l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, suivie d'amendes pour un montant record de plus de 5 millions d'euros. En ces matières, l'animateur de TPMP est un champion de la récidive qui fait beaucoup mieux que CNews, puisque cette chaîne n'a été sanctionnée que 2 fois. Autant de personnages, de méthodes et de pratiques qui, pour paraphraser Victor Hugo, souillent jusqu'aux mots de Cambronne. Dans des genres différents, Karl Marx, Guy de Maupassant et Émile Zola auraient certainement fait leur miel de cette sainte alliance du capital avec le goupillon et les très nombreux sabres médiatiques maniés par des hommes et des femmes à côté desquels Georges Duroy, l'anti-héros de Bel Ami, prêt à tout pour faire carrière dans la presse, passerait presque pour un enfant de cœur. Voilà qui confirme sinistrement le mot célèbre de l'auteur du manifeste du Parti communiste relatif aux agissements de la bourgeoisie qui ne cesse de noyer ce dont elle s'empare dans les, citations, « eaux glacées du calcul égoïste » et dans le cas présent, dans les flots nauséabonds et dangereux que grossissent les extrêmes droites fortement aidées par le groupe de Vincent Bolloré. jusqu'à plus ample informé, une telle situation est, en France, assez inédite, car jamais un milliardaire ne s'était engagé de la sorte en mettant ouvertement sa puissance financière au service de ces dernières. Dans cette quête insatiable de pouvoir, Vincent Bolloré vient d'ajouter une importante prise de guerre. Les éditions Fayard, désormais dirigées par Lise Boel, celle-là même qui a publié Philippe de Villiers et Éric Zemmour, et qui rêve de persévérer dans cette voie avec Jordan Bardella. Ce nouveau succès confirme l'extrême droitisation de la conjoncture et ses prolongements dans le champ éditorial, en même temps qu'il l'accélère et la banalise plus encore en offrant une prestigieuse tribune aux croisés identitaires que l'on sait. L'historien sud-unien Stéphane Kaplan a eu raison de dénoncer cet énième coup de force, mais il ne suffit plus désormais de s'en tenir au rappel du passé glorieux de cette maison d'édition. Auteur et autrice publiée par Fayard, j'en suis comme Alain Badiou, Pascal Blanchard, Pierre Birdaume, Judith Butler, Barbara Cassin, Noam Chomsky, Didier Héribon, Geoffroy de la Gasnerie, Alain Mabankou, Edgar Morin, Elisabeth Rudinesco et beaucoup d'autres encore, nous devons exiger la restitution immédiate de nos droits et refuser de cautionner par notre seule présence la soumission de cet éditeur au dessein politique de Vincent Bolloré et de ses moines soldats. Pour paraphraser Guy Hockenheim, nous ne sommes pas responsables de cette situation, mais nous serions fautifs de ne pas nous en dissocier. Dont acte. Voilà, donc c'est Olivier Lecourt, Grand Maison, universitaire, et dont le dernier ouvrage paru était « Racisme d'État, État raciste, une brève histoire » aux éditions Amsterdam 2024. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voudrais vous lire sur cette question de la presse, c'est un article qui a été publié dans le Club de Mediapart, dont l'auteur est Jean Bobéro-Vincent, et qui est intitulé « Quand Charlie Hebdo se dévoile en caricaturant Rokhaya Diallo ». Donc cette histoire de Rokhaya Diallo est que, une histoire de plus, un problème de plus, suite à nombreuses initiatives qui ont été prises contre des militants, des associations, prenant par exemple la défense du peuple palestinien, et dont on a vu la criminalisation, et notamment donc, la chasse aux sorcières, je l'évoquais tout à l'heure, organisé notamment à l'université, ce véritable maccartisme à la française. L'universalisme républicain, voilà le maître mot de l'article accompagnant la caricature et attaquant Rokhaya Diallo. Mais ce dessin constitue précisément l'exemple de ce racisme se cachant sous le masque de l'universalisme et d'une, entre guillemets, laïcité totalement dévoyée. Un article de Charlie Hebdo intitulé « Rokhaya Diallo, la petite fiancée de l'Amérique » est paru dans un hors-série de l'hebdomadaire censé dénoncer les fossoyeurs de la laïcité, accompagné d'une caricature de son directeur, Rice, qui la montre en train de se trémousser sur une scène devant une poignée de mecs, et que des mecs, hilar, portant une ceinture de banane à la taille. Cet attribut fait penser à une célèbre photographie de Joséphine Baker, mais on a beau se triturer la cervelle, on ne voit pas du tout le pourquoi de la chose. Une caricature accentue le ou les traits caractéristiques d'une personne. Ainsi, les caricatures de Charles de Gaulle le représentent en habit général. Là, quelle ressemblance ? Quel point commun peut-il bien exister entre ces deux femmes, à part le fait d'être des femmes précisément, mais comme plus de 3 milliards d'êtres humains ? La première est une écrivaine et une journaliste française vivant au XXIe siècle, la seconde une chanteuse, danseuse, meneuse de revue et actrice franco-américaine du XXe siècle. Non, rien de rien, non, je ne vois vraiment rien, chanterait Edith Piaf. Ah, il y a bien un truc, mais je n'arrive pas à savoir lequel, et plus je m'obstine à le chercher, moins je trouve. Bon, cela va me revenir quand je n'y penserai plus. Effectivement, quelques heures plus tard, je me dis, non, ce n'est pas possible, ils ont osé. Le point commun, le seul possible, est que toutes les deux ont la peau noire. Enfin, ce noir est seulement une couleur sociale, car vous les mettez devant un tableau de Soulages, le contraste est saisissant. De même, vous me placez face à un mur blanc et vous pourrez constater qu'heureusement, je ne suis pas blafard. Et pourtant, Manuel Valls me qualifierait de « blancos ». Pourquoi, diable, quand il s'agit de dessiner Rokhaya Diallo, Rice a pensé à Joséphine Baker ? Parce que pour lui, elle n'a pas la peau noire, comme moi je commence à avoir les cheveux blancs. Non, elle est noire, fondamentalement noire. Cela constitue sa caractéristique principale, le trait à retenir pour l'assimiler à une autre noire qui n'a par ailleurs absolument rien à voir avec elle. Le fait qu'elle publie des livres, qu'elle écrit des articles, tout cela importe peu. Elle n'a jamais dansé sur scène, la caricature ne fait référence à rien qui se rapporte à sa vie, par exemple une signature de livre, mais peu importe sa vie, aux yeux du directeur de Charlie, elle n'est pas une individu. Rhys n'a retenu d'elle qu'une chose, sa peau est noire. Et cela lui fait aussitôt penser à une autre noire, Joséphine Baker, limpide. Il y a une quinzaine d'années, Rokhaya Diallo animait un groupe nommé les Indivisibles. La République étant indivisible, ses citoyens sont égaux. Cette association décernait le prix Yaan Bon Award à des propos racistes de journalistes. Exemple dont je me souviens, un éditorialiste du grand hebdomadaire avait écrit « Ces gens-là se reproduisent comme des lapins. » Sic. Yaan Bon Award était une allusion au slogan raciste et colonialiste Yaan Bon Banania, censé représenter le français parlé par les Africains. L'affiche comportant cet énoncé mettait en scène un tirailleur sénégalais souriant, déguisé, dégustant un bol de banania. Incontestablement, Charlie a un droit à un Yaan Bon Award, toute catégorie. Mais attendez, l'affaire n'est pas finie. On n'a pas encore atteint le sommet de l'immonde. Quand Rokhaya Diallo constate sur le réseau social X que ce dessin hideux, entre guillemets, s'inscrit dans, c'est la citation de Rokhaya Diallo, dans le droit fil de l'imagerie coloniale, car Joséphine Baker, en son temps, retournait un stigmate. L'hebdomadaire, sur le même réseau, l'accuse aussi sec. Y voir une référence raciste est une manipulation dont elle a malheureusement, nous a malheureusement habitués. Fin de citation. Et sans vergogne aucune, il poursuit en reprochant à l'écrivaine d'assigner, citation, « chacun à son origine ethnique et religieuse contre l'universalisme républicain ». Donald a trouvé son maître et il lui sera difficile de faire aussi bien dans le retournement complet de la vérité. Mais qui Charlie espère-t-il tromper ? Même Olivier Faure a trouvé le dessin raciste. L'universalisme républicain, voilà le maître mot de l'article accompagnant la caricature et attaquant Rokhaya Diallo. Parce que celle-ci a dénoncé, citation, « le racisme et l'islamophobie de son pays de naissance ». Au lieu d'opposer au sacro-saint multiculturalisme américain un universalisme républicain salvateur. Mais comment l'hebdomadaire fait-il pour ne pas percevoir que son dessin constitue précisément l'exemple type de ce racisme, se cachant sous le masque de l'universalisme, de qualifier de salvateur montre bien l'aspect religieux du républicanisme de Charlie, et d'une laïcité, entre guillemets, totalement dévoyée. En plus, l'auteur de l'article, Jovan Simovic en rajoute « pays de naissance », entre guillemets. Cette expression n'aurait nullement été utilisée pour désigner les Françaises et les Français, blancs. Décidément, Charlie racise comme il respire. Il demande à Rokhaya Diallo de « causer un peu », entre guillemets, aux Américains de notre patrimoine franchouillard au-delà de la bouffe et du pinard. Fin de citation de Charlie Hebdo. Mais elle n'a nul besoin de le faire. L'hebdomadaire s'en charge fort bien, ne saurait faire plus franchouillard. Charlie semble complètement englué dans les œillères de la bonne conscience, devenant complètement hors sol, croyant que son statut de victime lui donne tous les droits ad aeternam. Vraiment affligeant. Je suis, entre guillemets, blanc de naissance, comme l'écrivait Charlie, mais aujourd'hui je me sens bleu, rouge, noir, vert, jaune, violet, et comme ma sœur Rokhaya, pardon, j'ai reçu un soufflé. Donc, là, c'est le texte de Jean Bobéro et avec le post-scriptum. La Vigie de la laïcité publie un communiqué dont donc Jean Bobéro donne le contenu. La Vigie de la laïcité exprime son soutien total à Rokhaya Diallo, visé par une caricature publiée par Charlie Hebdo et dénoncée pour ses codes colonialistes et sa réduction sexualisée. La Vigie de la laïcité rassemble de très nombreux membres et sensibilités. Parmi eux figure notamment Jean Bobéro Vincent, qui a coécrit avec Rokhaya Diallo un ouvrage consacré à la laïcité. Cette diversité nous oblige à une exigence commune, défendre la loi du 9 décembre 1905, dont nous célébrons les 120 ans, et ainsi promouvoir une laïcité de liberté, d'égalité et de dignité, sans jamais tolérer que l'on essentialise, humilie ou déshumanise une personne au moyen d'une imagerie racialisante. Nous le rappelons, la critique des idées, y compris vives, est légitime, et la satire a toute sa place dans une démocratie, mais elle ne saurait justifier que l'on réactive un imaginaire colonial pour rabattre une femme noire sur son corps spectacle Exotisé, ce glissement n'éclaire aucun débat. Il abîme l'espace public et alimente précisément ce que la laïcité doit empêcher, la hiérarchisation des personnes et le soupçon jeté sur certaines citoyennes. Nous dénonçons également la tentative de défense de cette caricature par l'instrumentalisation de la figure de Joséphine Baker. Joséphine Baker a pu, dans un code qu'elle tentait de maîtriser, jouer avec des stéréotypes pour mieux les retourner. Mais l'invoquer ici revient à détourner son héritage pour justifier une imagerie qui, au contraire, réactive sans distance des codes de domination et les impose à la personne visée. Nous appelons à la responsabilité, au respect des personnes et à un retour au débat de fond. La laïcité n'est ni un prétexte à l'assignation identitaire, ni un outil de disqualification personnelle. Elle est un cadre destiné à garantir la liberté de conscience, l'égalité et la construction du commun en s'appuyant sur toutes les cultures et toutes les appartenances. La vigie de la laïcité réaffirme enfin sa détermination à combattre toutes les formes de racisme et de sexisme, quels que soient leurs habits, y compris lorsqu'ils se présentent comme de l'humour. Voilà. Donc, c'était ce très beau texte de Jean Bobéro-Vincent. Et nous reviendrons sur cette affaire, puisque je pense que la semaine prochaine, je pourrai vous lire un communiqué de la Libre-Pensée, de la Fédération Libre-Pensée, sur la défense de Rokhaya Diallo. Voilà. Alors, je vous propose maintenant, en rapport avec ces deux textes, mais plus particulièrement avec le premier texte, cette chanson donc d'Alain Souchon dans « Les poulaillers ». Nous écoutons.
Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit sont plus bronzés que nos petits poulbeaux. Mais comprenez-moi, la djé là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'op. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traîns de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce que mais comprenez-moi, à Rochechouart, y a des taxis qu'on perd du noir. Comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami? Yeah.
ne disposons pas du temps suffisant pour aborder de manière suffisante le deuxième sujet dont je voulais parler, à savoir la marche vers la guerre. Je le traiterai bien sûr dans une prochaine chronique. Je rappelle simplement que cette année a été quand même marquée tout récemment par les déclarations du chef d'état-major de Macron, Thierry Mandon, indiquant donc en s'adressant dans le Congrès des maires, ce qui est absolument inouï, donc pour dire qu'il fallait se préparer à une situation de guerre et qu'il fallait que les familles acceptent de voir leurs jeunes partir à la guerre et ne pas en revenir. C'est inouï. Et ces propos, comme l'a relevé d'ailleurs un ancien officier interviewé sur France Info, n'ont pas pu être tenus sans l'accord explicite du président de la République. Donc c'est une affaire grave. Et c'est une affaire d'autant plus grave qu'on entend les mêmes types de propos en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, un petit peu partout à travers le monde, bien sûr aux États-Unis. Et donc, bien évidemment, pour le plus grand bien des fabricants d'armes. On se rappelle les paroles d'Anatole France, « On croit mourir pour la patrie ». On meurt pour les industriels. Voilà. Donc j'en resterai là et reviendrai sur ces sujets, bien sûr, dans les prochaines chroniques. Et bien évidemment, puisque nous sommes maintenant à la veille du Nouvel An, je voudrais souhaiter à toutes nos auditrices et auditeurs que les dernières heures et les premières heures de la nouvelle année, les dernières heures de l'année qui se termine et les heures de la nouvelle année qui va commencer se passent le mieux possible et que, si on peut exprimer un vœu, mais on y reviendra, c'est que le combat contre la guerre puisse dominer l'année prochaine et inverser le cours auquel nous assistons actuellement. Je vous propose, pour terminer cette chronique, d'écouter le message que j'ai enregistré pour Radio Libre Périgord, comme l'ont fait de très nombreux éditorialistes de RLP. Et donc ça dure 2-3 minutes. C'est le moment d'écouter cela. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, le jingle de fin. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle chronique dans cette nouvelle année 2026. Ici, les radios locales comptent encore. Chaque lundi, de 11h30 à midi et, sauf exception, en direct sur RLP, je vous présente la chronique du groupe Fred Zeller, Libre Pensée Dordogne. À partir de textes sélectionnés, de déclarations et d'analyses de la Libre Pensée, mais aussi de contributions publiées dans des médias sur des sujets d'actualité ou à caractère historique, philosophique, politique, ou encore à partir de réflexions plus personnelles, j'espère susciter curiosité, divergence, voire réprobation, et peut-être parfois découverte, et pourquoi pas adhésion. Cette liberté de parole, si promue par Radio Libre en Périgord, et sans doute beaucoup d'autres radios associatives, c'est une sorte de fausse note dans le concert des médias mainstream diffusant en boucle une pensée aseptisée. Mais une fausse note qui est notre fierté. Une fausse note qui ne va pas perturber l'orchestre officiel. Notre voix est bien trop faible pour cela. Et pourtant, serait-elle de trop? Nous n'osons y croire. Notre radio locale compte encore. Une fausse note un peu comme la Blue Note, cette fausse note qui a sublimé la musique du début du XXe siècle. Une fausse note que je voudrais pouvoir cultiver, en faire éclore de nouvelles inattendues, troublantes. Que ces notes égrenées par la guitare de Johnny Hooker, ces notes de Trouble in Mind, vous accompagnent en cette fin d'année, elles illustrent à mon sens un espoir un peu fou que les choses peuvent changer, qu'elles doivent nécessairement changer, qu'on peut rompre avec le passé, qu'on peut dessiner un avenir de concorde et de paix. Qui sait, 2026, année des fausses notes les plus sublimes? Nous savons que notre radio locale peut compter sur vous. Mais il faudra compter avec les radios locales. Il faudra compter avec notre radio locale. Il faudra compter avec Radio Libre en Périgord. Merci à Antoine, à Simon, à Aïda, à tous ces jeunes en service civique ou en stage à Radio Libre en Périgord qui ont assuré toute cette année la technique de la cinquantaine de chroniques du groupe Fred Zeller. Merci à toute l'équipe de RLP. Merci à toutes nos auditrices et auditeurs d'avoir écouté ces chroniques. À l'année prochaine.
en forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi 11h30.